lecture du livre de l'Exode. À ce jour-là, chaque étape pendant la marche au désert, Moïse prenait la tente et la plantait hors du camp, à bonne distance. On l'appelait tente de la rencontre. Et quiconque voulait consulter le Seigneur devait sortir hors du camp pour gagner la tente de la rencontre. Quand Moïse sortait pour aller à la tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait Moïse du regard jusqu'à ce qu'il soit entré. Au moment où Moïse entrait dans la tente, la colonne de nuée descendait, se tenait à l'entrée de la tente, et Dieu parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui se tenait à l'entrée de la tente. Tous se levaient et se prosternaient, chacun devant sa tente. Le Seigneur parlait avec Moïse face à face, comme on parle d'homme à homme. Puis, Moïse retournait dans le camp, mais son auxiliaire, le jeune Josué, fils de Noun, ne quittait pas l'intérieur de la tente. Le Seigneur proclama lui-même son nom, qui est le Seigneur. Il passa devant Moïse et proclama, « le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité, qui garde sa fidélité jusqu'à la millième génération, supporte faute, transgression et péché, mais ne laisse rien passer, car il punit la faute des pères sur les fils et les petits-fils jusqu'à la troisième et la quatrième génération. » Aussitôt Moïse s'inclina jusqu'à terre et se prosterna. Il dit, « S'il est vrai, mon Seigneur, que j'ai trouvé grâce à tes yeux, daigne marcher au milieu de nous. Oui, c'est un peuple à la nuque raide, mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu feras de nous ton héritage. » Moïse demeura sur le Sinaï avec le Seigneur 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea pas de pain et ne but pas d'eau. Sur les tables de pierre, il écrivit les paroles de l'Alliance, les 10 paroles, paroles du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu.
Psaume 102. Le Seigneur est tendresse et pitié.
Le Seigneur est tendresse et pitié.
Le Seigneur fait œuvre de justice. Il défend le droit des opprimés. Il révèle ses desseins à Moïse, aux enfants d'Israël, ses hauts faits.
Le Seigneur est tendresse et pitié.
Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches.
Le Seigneur est tendresse et pitié.
Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint.
Le Seigneur est tendresse et pitié.
Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés, comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint.
Le Seigneur est tendresse et pitié.
Alléluia, alléluia. La semence est la parole de Dieu.
Alléluia, alléluia.
C'est la parole de Dieu. Le semeur et le fruit. Celui qui le trouve demeure pour toujours. Alléluia.
Alléluia.
Évangile de Jésus-Christ notre Seigneur. Selon saint Matthieu, gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, laissant la foule, Jésus vint à la maison. Ses disciples s'approchent et lui disent : explique-nous clairement la parabole de l'ivre dans le champ. Il leur répondit : celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. Et l'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Alléluia. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils enlèveront de son royaume toutes les causes de chute, et ceux qui font le mal, ils les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende, acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. S'inscrit dans nos âmes, qui nous lave de toutes nos fautes. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ton évangile, Seigneur, répand merveilleusement. Ta rosée, son parfum, son huile vivifiante, son évangile sur toute la surface de la terre et pénètre, imprègne les âmes vraiment pauvres, petites, puissantes, humbles et pures, assoiffées de vie éternelle, qu'elles puissent voir dès cette terre s'ouvrir devant leurs yeux les portes de la Jérusalem d'en haut, libérées de toute entrave, purifiées de toute faute. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Louange à toi. Alléluia, louange à toi, alléluia, louange à toi, alléluia, louange à toi, alléluia, louange à toi, alléluia, louange à toi.
De plus en plus, on essaie de descendre au niveau des petits-enfants. C'est vrai.
Absolument.
Quand nous étions enfants, on nous a appris, bien sûr, qu'on avait un ange gardien. C'est tellement loin tout ça, alors on faut redire tout ça. Aujourd'hui, on est un petit peu l'Église catholique, c'est ça. Elle a oublié. On l'a su, mais c'est oublié. Tout ça est oublié. On a un peu oublié, quoi. C'est pas qu'on l'ait pas su, mais c'est loin. On avait 4, 5, 6, 7 ans. On a lu la mise de pain. Mais c'est loin, quand même. Hein. Qu'on ait aujourd'hui 35 ans ou qu'on en ait 65, c'est pareil. On est un peu dans la même situation. Non. Faut revenir à des choses pour les enfants. Et l'évangile d'aujourd'hui, il est génial. Hein. Juste aussi en même temps, c'est toujours bien quand on a quand on est tranquille. C'est vrai. On n'a pas un champ à cultiver, on n'a pas une maison à construire. Donc on peut mettre une toute petite caillou. C'est pas trop fatigant. Voilà. S'il y a des choses au fond importantes pour le temps dans lequel nous sommes. Il n'y a pas grand-chose à retenir, en fait. Mais tout de même, il faut quand même qu'elle soit là. Alors, je voulais juste, si vous voulez bien, par rapport à la Gadal d'aujourd'hui, poser une question. Le Fils de l'homme, la fin du monde, explique-nous la parabole de l'ivraie. C'est pas explique-nous la parole du bon grain ou de l'ivraie et du bon grain. C'est explique-nous la parabole de l'ivraie. Pas facile. Quand on parle de la fin du monde, de mettre son nez. Très chargé du mystère de l'ivraie. On préfère la responsabilité des petits-enfants que nous sommes, tiroir fraternel de l'univers, elle est très grande. Et même les plus grands sages, les plus grands saints de la terre ne peuvent pas porter ça. La souffrance qui correspond à cette marque d'iniquité terminale est beaucoup trop lourde pour les adultes, pour les très grands saints. Ils ne peuvent pas porter ça. L'enfant peut. Pourquoi? Parce que l'enfant est capable de donner sa vie. Nous, on a beaucoup de mal à faire un petit effort qui nous coûte un tout petit peu. Même pour notre devoir d'État, hein. C'est dur, hein. Oh que c'est dur. Alors tu penses, quand il s'agit de mystère d'iniquité, c'est pour ça, explique-nous la parabole de l'ivraie, je vous signale quand même. Enfin, nous notons ça, pourquoi est-ce que... Et Jésus répond, mais... Il répond... Regardez d'abord le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est pas un mystère d'iniquité. C'est pas un mystère de l'ivraie. Hein? Oui. C'est un texte de la Révélation, ça. Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Tu ne peux pas comprendre le mal si tu vois pas le bien. Et tu ne peux pas voir le bien. Tu ne peux pas voir le bien si tu ne vois pas celui qui est ce bien, qui fait ce bien, qui plante ce bien. Et ce
celui qui plante le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Et le bon grain, c'est quoi? Toujours pareil, c'est la grâce finale. C'est la grâce de persévérance. Et quand vous faites le catéchisme aux petits-enfants, vous essayez à chaque leçon, si possible, de leur faire comprendre et prendre conscience qu'il faut qu'ils aient la persévérance. Que c'est le plus important de ce que c'est la persévérance. Le plus important du jour salut Marie, c'est « Et à l'heure de notre mort ». Persévérance finale. Le plus important de notre Père, c'est « Délivre-nous du mal ». Ça, c'est à la fin. Après le jugement dernier, on est délivré du mal. Le plus important, c'est toujours là, et c'est le bon grain, et c'est le Fils de l'homme qui plante cette récolte, enfin cette destruction. C'est pas la destruction du mal, c'est le bien est si grand qu'il n'y a plus rien de mal. Jugement, quoi, je suis. On est après le jugement, puisque c'est la fin du monde. Avant la fin du monde, il y a le jugement. Et à la fin du monde, il n'y a plus que du bien. Attention, hein. La fin du monde, c'est pas la fin des temps. Hein. Donc, et le Fils de l'homme. Alors maintenant, petite précision. La grâce, l'amour. Notre vie, quoi. Si on a bon cœur, si notre âme est largement ouverte à la présence de Dieu, si on est des petits enfants de Dieu, si on aime, si on a ce désir d'être fidèle et de persévérer jusqu'au bout, alors on vit, on fait des actes de foi, d'espérance et d'amour. Mais des actes d'espérance pas humains, pas sur les biens de la terre, des biens d'espérance sur la grâce finale, sur la grâce. Voilà, bon, ça on a vu ça déjà, hein. On a compris ça déjà. Hein. Et la grâce finale, on laisse tomber toutes les autres grâces intermédiaires. Voilà, réussir le JMJ. C'est super de réussir les JMJ. Obtenir une victoire éclatante au synode de la famille. S'il y a une victoire éclatante, c'est très 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 bien. Mais Jésus explique-nous la parabole délivrée. La grâce finale, c'est une grâce, alors regardez. À la fin, c'est l'instant présent de la grâce sanctifiante. L'instant présent de la grâce sanctifiante, c'est qu'on est capable, par la foi, par l'espérance et par l'amour, d'être transporté visiblement, cordialement et sensiblement, d'être transporté dans l'état d'amour, de lumière, de béatitude, de glorification de la Très Sainte Trinité, que la Jérusalem céleste glorieuse va donner à tout ce qui est intime au Père, à l'Esprit Saint, et à la vie intérieure et éternelle de Dieu. À la fin, c'est la Jérusalem glorieuse, c'est-à-dire l'Église, c'est-à-dire nous, sera dans un état d'amour, de foi parfaite, semblable à celle de l'Immaculée Conception accomplie. La foi de l'Immaculée Conception accomplie. Et l'espérance finale de la soif, de la plus extraordinaire qui ait jamais existé dans la sainteté de l'Église. Celle qui aspire justement la venue du Fils de l'homme. Celle qui provoque. Il n'y a rien qui se passe dans le temps de la terre qui ne vienne de la foi et de l'espérance de l'Église. Ça ne vient pas comme ça en disant paf, allez, voilà, maintenant Ils en ont marre, allez, j'arrive. Les choses ne viennent pas à cause de la toute-puissance de Dieu, seul, de Saint-Jésus. Dieu obéit à la voix. Dieu est délicat. Dieu s'ajuste. La présence eucharistique de Jésus est toujours en affinité, s'adapte. C'est pour ça qu'il est obéissant. C'est une obéissance de pauvreté, d'amour parfaite. Sa toute-puissance est une toute-puissance d'adaptation à nos goûts, à nos désirs de sainteté finale. Et donc à chaque fois qu'on savoure la grâce sanctifiante, on savoure en fait la grâce de plénitude reçue, de la grâce accomplie de la Jérusalem céleste, de la fin. Est-ce qu'il faut que je répète cette phrase ? C'est ça l'objet de la foi, d'après la somme de saint Thomas d'Aquin. C'est ça l'objet de l'espérance. C'est l'accomplissement, en plénitude reçue, et pas juste d'une personne, mais de toute la Jérusalem glorieuse. Hein. Jérusalem glorieuse, c'est pas le but. Le ciel de la résurrection, c'est pas le but. La preuve, c'est que la résurrection, elle n'existait pas à un moment donné. Jusqu'à même à l'époque de Saint Joseph, quand Joseph est descendu aux enfers, le ciel de la résurrection n'existait pas. Donc, le ciel, quand on dit je veux aller au ciel, de la plénitude de la gloire de la résurrection. La résurrection, c'est quelque chose de créé. C'est quelque chose de créé. Donc, c'est pas le but. Puisque le but, c'est Dieu. C'est la mort qui est le but. Et donc, le ciel de la résurrection, c'est un état de la mort vers lequel que nous pouvons faire vivre en nous dès maintenant. Pour que notre charité soit en affinité avec ce degré d'intensité d'amour et de charité de la Jérusalem céleste qui est que créé, c'est tout. Et qui est un instrument pour qu'on bondisse dans l'accueil du Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel. Et ça, c'est la vocation et la mission d'Israël. Et il y a... C'est dommage, il faudrait que je retrouve le titre exact de ce petit livre qui est sorti il n'y a pas longtemps, là, qui a été préfacé par un cardinal Barbarin, du second. Je crois que c'est un des principaux rabbins, grands rabbins de Jérusalem. Bon, donc il y a une... c'est pas une discussion comme dans un banquet de Platon, non. Il est tout seul à expliquer ce que ça veut dire pour nous, la tradition vivante, brûlante, aimante d'Israël. C'est quoi le Fils de l'homme ? Ce livre est admirable, il est vraiment génial. Il faut que vous, si vous le trouvez, lisez-le. Alors là, il est vraiment génial. Il est vraiment génial. Bon, il rappelle ce que dit Saint Jérôme, on est d'accord ? Saint Jérôme s'est dit de manière telle qu'on ne le voit pas passer. Parce que là, c'est avec, vous savez, quand c'est dit comme ça, quoi, à longueur de page avec les textes, etc., qui donnent la tradition de Moïse et tout ça, ça devient aveuglant, c'est-à-dire ça devient indiscutable. Quand Jésus, et c'est lui qui explique ça, c'est pas un catholique, c'est pas un père de l'Église. C'est pas un docteur de l'Église. C'est un juif d'aujourd'hui, celui pour lequel nous prions la nuit. D'ailleurs, vous pouvez le voir vous-même en lisant les saints évangiles. Quand Jésus se présente comme fils de Dieu, il se désigne dans son humanité. Il ne se dessine pas dans sa divinité. Oui, au Sanhédrin. Il dit, es-tu le Messie, le Fils de Dieu, Dieu le Fils, le Dieu vivant. bêtise, c'est toi-même qui viens de le dire. C'est toi-même qui viens de le dire. Quand les démons, les ennemis de Jésus, le désignent comme fils de Dieu, ils le désignent dans son humanité, celle qu'ils veulent détruire. On ne peut pas détruire la divinité. Donc les Juifs disent, vous voyez, c'est déjà comme ça dans l'ancienne alliance. Quand on désigne dans le Messie le Fils de Dieu, en désignant lui son humanité. Et c'est ce que dit Jésus dit d'ailleurs. Mais pourquoi vous dites-vous que c'est pas bien quand... Puisque David dit que si... c'est dit que, bon, ceux qui croient en Elohim sont des fils de Dieu. Et pourquoi est-ce qu'un rabbi d'Israël ne serait pas fils de Dieu? Ça veut dire qu'il ne croit pas en Elohim? Eh bien, donc, d'être fils de Dieu dans le langage courant de la mort messianique, ça désigne pas la divinité, ça désigne l'humanité dans laquelle la divinité se répand. C'est vrai que quand on est envahi totalement et par rien d'autre en nous que la divinité de Dieu, on fait oraison, ça y est, on fait un acte de foi. Et puis le rabbin continue, puis il explique, en fait, il fait une espèce de catéchisme pour ces pauvres catholiques qui ne savent pas les premières prémices des mots qui concernent Jésus de Nazareth, quoi. On voit qu'il fait ça avec beaucoup d'amour, beaucoup de respect, beaucoup de délicatesse, devant des ignorances inouïes pour eux. Même pour Jésus, ils ne savent pas ces choses élémentaires qu'un enfant de 4 ans en Israël sait. Mais non, il a vu sur Jésus de Nazareth, il savait ça. Évidemment. Et Strauss-Kahn aussi, ça je peux vous le dire. C'est absolument certain. Et c'est pour ça qu'ils ont toujours une espèce de... Et ils continuent à poser la question. Rabbi Kadouri. À un moment donné, ils se convertissent. Ah, ça c'est autre chose. C'est autre chose, ça c'est Dieu qui convertit. Vous ne pourrez jamais convertir personne. C'est Dieu qui convertit. C'est Dieu qui choisit. C'est pas vous qui voulez, c'est moi qui vous ai choisi. Donc vous pouvez faire tous vos efforts pour convertir qui vous voulez. Vous ne risquez pas d'y arriver. Ça ne sert à rien. C'est Dieu qui convertit. Ah oui, vous pouvez le désirer. Humblement. Alors, le Fils de l'homme, c'est quoi? Dans le langage révélé par Yeshua Mashiach, lorsque dans sa cabote, il parle à Moïse dans le Saint des Saints de la tente de réunion. Le Fils de l'homme. Eh bien, le rabbin explique dans son livre. D'ailleurs, si vous n'avez pas le temps de lire le livre, lisez seulement la préface du cardinal Barbarin. Il résume très, très, très bien le truc. C'est pour nous, c'est vrai, on n'a pas toujours beaucoup de temps. Hein. Moi, j'ai le temps, tout ça, j'ai rien à faire, je suis dans ma grotte. Pas d'enfant, j'ai pas d'amis. Travail, j'ai rien à faire, tout va bien, donc j'ai le temps de lire, ou peut-être pas toujours, parce que c'est vrai. Et merci beaucoup, vous prenez du temps, c'est bien. Je vous remercie beaucoup, je suis très touché que vous soyez là. Il faut persévérer. Hein. Persévérer. Dans la bonne volonté, il faut persévérer. C'est vrai, c'est pas notre volonté. C'est... Alors, qu'est-ce qu'il dit à propos du Fils de l'homme? Il dit, le Fils de l'homme, quand on pas ce mot, mais il est employé très souvent, hein, dans le livre d'Ézéchiel, par exemple. Très souvent, dans le livre de Daniel, très souvent. Exprimé. Et même dans le livre de la Genèse, dans les psaumes, n'en parlons pas. Et ça désigne dans le Messie la divinité de Dieu. Ça vous surprend, hein? Parce qu'il y a marqué le Fils de l'homme. Qu'est-ce que c'est qu'il nous raconte là? Je comprends plus, parce que nous on est cartésiens, tu sais, alors on dit Fils de l'homme, ça désigne être la divinité incréée de Dieu. Mais oui, bien sûr que ça désigne la divinité incréée de Dieu. C'est clair, comme c'est parfaitement clair, c'est évident pour celui qui a la foi. Pourquoi? Parce que dans la cause finale, c'est la toute-puissance de la divinité de Dieu qui met un terme au temps, puisque c'est lui qui a mis un principe au temps. C'est le principe de la toute-puissance incréée de Dieu qui met un terme aux dispositions et aux déterminations de la matière. Et aussi, un terme, vous voyez, un terme non seulement enveloppant, mais un terme spirant à toutes les réalités, aux libertés angéliques et humaines. C'est pas la grâce du Messie qui fait ça. C'est la toute-puissance divine elle-même, à travers ce qu'elle engendre dans l'engendrement humain. De sorte que la toute-puissance de Dieu doit un jour s'engendrer, non pas créer, dans l'engendrement humain. Et le Fils de l'homme, quand on parle dans le livre de Daniel, dit-il, d'Ézéchiel, du Fils de l'homme, ça désigne dans le Messie la divinité hypostatique du Messie.
C'est quoi hypostatique?
C'est la personne éternelle elle-même. C'est Dieu. En Dieu, il y a une seule nature éternelle, incréée, non créée. Il y a trois hypostases. Ab Elohim, Ben Elohim, Ruach HaKodesh Elohim. Shalashad Barad et Rab Shloshad, hein? Trois en un, non trois. Ça. D'accord? Et le Fils Ben Elohim est Dieu. C'est-à-dire, il est les trois. Le Fils est les trois. Elohim, c'est au pluriel. En un. Et ça, c'est quand on veut par la foi l'atteindre dans le monde, une fois accompli, dans une charité accomplie, qui fait passer à l'amour incréé et accompli, dans un accomplissement éternel, alors on désigne le Fils de l'homme. C'est extraordinaire que la foi d'Israël. Et alors, donc, troisième partie du bouquin. Israël, il ne dit pas qu'il est juif messianique, il est juif, fils d'Abraham. Notre mission, d'après le livre de Ézéchiel et de roi David, notre mission, et ça, on y restera fidèle, notre mission, c'est pas par rapport au Messie, fils de Dieu. Là où notre mission est infaillible, selon la volonté d'Adonai Elohim, c'est par rapport au Messie, Dieu vivant. Donc notre mission à laquelle nous serons, nous savons par révélation que nous serons fidèles,
ce sera par rapport au Messie fils de l'homme, c'est-à-dire celui de la fin. C'est extraordinaire d'entendre ça de la bouche de quelqu'un qui n'est pas chrétien. Et qui est pour comprendre ce que c'est que la... Ils savent, c'est ce qu'il y a de très curieux chez les juifs religieux intérieurs. Ce qu'il y a de très curieux, c'est qu'ils savent, mais qu'ils n'ont pas encore la grâce de leur mission. Ils ne l'ont pas. Et c'est pour ça qu'ils crucifient le Messie, fils de Dieu. Ils ne l'ont pas. Dieu, Épître aux Romains chapitre 8, 9 et 10, Épître aux Romains, Dieu ne leur a pas donné cette grâce, il ne leur la donnera que dans la persévérance finale. Et nous verrons de nos yeux, en effet, que les vertus de religion catholique, par exemple, seront inaptes à se retrouver elles-mêmes avec eux dans la persévérance finale. Sauf ceux qui sont dans la grâce finale, c'est-à-dire dans le mariage spirituel. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que parlait le père Thomas, le frère de Père. Il sentait que là, il fallait mettre un temps là pour que ça pénètre. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous saisissez? Est-ce que vous comprenez? Le théologien a le souci que les personnes comprennent quand même. Est-ce que vous tout touche? Est-ce que c'est que la foi catholique? Catholique n'est pas périphérique. Explique-nous la parabole de l'ivraie. Jésus répond, celui qui sème le bon grain dans la bonne terre, c'est le Fils de l'homme. Alors, vous voyez bien, à quel point on est appelé dans l'Eucharistie. Le baptême, ça veut dire l'oraison. L'Eucharistie. En fait, à chaque fois, vous regarderez le petit livret qui s'appelle Le fruit des sacrements. C'est les sept manières finales d'obtenir l'état de charité en infinité avec le degré d'intensité de la charité du Christ lui-même. Maintenant, on ne peut pas dire qu'on soit à un même état d'intensité de sa charité à lui. Hein. Et quand vous faites un acte de foi, si vous suivez saint Thomas d'Aquin, quand vous faites un acte d'espérance, ou un acte d'amour, de charité surnaturelle, un acte, 3 secondes pour chacun, hein, un acte, un seul acte, s'il est théologal, surnaturel et catholique, eh bien, il touche la plénitude de l'accomplissement reçu de cette lumière ou de cette surabondance. C'est celle qui est à la frontière, à la dernière frontière de la grâce capitale, de source de toutes les grâces, qui fait qu'on est prêt à être projeté dans l'océan de la grâce incréée. Ça, c'est l'espérance. D'ailleurs, vous l'avez dans la formule de l'acte d'espérance. Mon Dieu, j'espère, avec une ferme confiance, que vous me donnez en cet instant, dans les mérites vivants de notre Seigneur Jésus-Christ, toutes les grâces que tu as données à ce monde, en même temps que la grâce incréée dans le monde, dans l'autre. La frontière entre les deux est l'indivisibilité de ces deux grâces. Toutes les grâces créées et en même temps la grâce incréée de l'autre monde, l'éternité. Quand vous apprenez l'acte d'espérance, on apprenait par cœur l'acte d'espérance. Encore aujourd'hui, vous savez l'acte d'espérance par cœur. Mon Dieu, j'espère, avec une ferme confiance, que vous me donnez en cet instant toutes les grâces communiquées.
si
nous rentrons dans les invitations, si nous rentrons dans les commandements. Il y a aussi cette petite parenthèse dans l'acte d'espérance. Si je renonce aux sept péchés capitaux, le caprice spirituel personnel, le Seigneur m'a donné une mission de sainteté exceptionnelle. Ou l'orgueil, ou la paresse, ce manque de confiance inouïe, ou la luxure, parce que c'est trop. J'ai quand même le droit. La luxure, c'est une perversion du droit, du corps. Qu'on n'a pas d'autre droit que celui d'être extasié dans une béatitude qui surpasse de très loin tous les délices de la terre, du point de vue même du délice. Et de renoncer à ce droit du corps pour des droits temporels, c'est la luxure. Pareil, donc pour les sept péchés capitaux, si je rentre dans les invitations, si les invitations mitzvot, c'est-à-dire si je m'accomplis dans les commandements. Alors, acte d'espérance, on l'apprend par cœur quand on a un enfant. Et on apprend aussi par cœur l'acte de charité, hein. Surnaturel, théologal. Voilà, bon, très bien. Donc, le troisième chapitre du rabbi, c'est. Il n'est pas mort, hein, il est toujours vivant, il est tout frais, hein. Et aucun juif du monde ne dit, mais vous n'êtes pas dingue d'avoir dit ça. Mais tous, ils le savent, ça. Peut-être que quelques-uns, en catimini, ont dit, il ne fallait pas donner ça au goïm, quand même. Peut-être, c'est possible, ça. Il n'y en a pas un seul qui a dit, mais c'est pas vrai. En plus, vous pouvez vous-même regarder dans les évangiles. Le livre de Daniel, le livre d'Ézéchiel, le fils de l'homme, c'est ça que ça veut dire. Même Jésus, quand il parle de ça, il dit, attends. Il se présente jamais comme Dieu le Fils. Il se présente comme le fils de l'homme, celui qui vient sur les nuées du ciel. Et de la fin du monde, il vient jusqu'à nous, dans la famille de Marie et Joseph. Il vient. Vous voyez, quand on fait oraison, il vient jusqu'à nous, dans l'instant de notre oraison. Il vient de là où il vient, de là où il est le Fils de l'homme. Il fait donc naître par la foi, l'espérance et la charité surnaturelle en nous, la vie contemplative, véritable. La contemplation juste, la vérité juste, accomplie. Là où la lumière divine en nous, dans notre intellect agent, se trouve à la frontière. Et même dans, sans aucune distance, elle peut même se mélanger avec la lumière, née de la lumière. Parce que la lumière née de la lumière, c'est Dieu le Fils. Donc il y a trois lumières qui se conjoignent. La lumière surnaturelle de la foi, elle peut pénétrer dans la lumière née de la lumière. Et aussitôt, bien sûr, on se trouve dans la lumière qui engendre de manière à créer la lumière. Et ces trois lumières surnaturelles de la foi, et puis les lumières sacrées qui sont le Père et qui sont le Dieu engendré dans la lumière, se conjoignent dans l'indivisibilité qui glorifie Dieu. L'acte de foi que nous faisons. Glorifie Dieu, il est honoré et nous met à égalité avec Dieu. La foi pénètre à l'intérieur de Dieu et permet qu'il y ait de plus en plus un amour, de plus en plus en affinité avec le degré d'intensité du feu qui brûle, d'amour le Fils de l'homme lui-même. Marie n'a pas jamais pu rentrer dans l'instant de sa dormition tant que sa charité à elle n'ait pas atteint le degré d'affinité qu'avait atteint le cœur de Jésus, fils de l'homme, dans son incarnation. Dans son incarnation, le feu de la mort du Dieu vivant, dans sa vision béatifique, ce qu'il avait dès la naissance, il n'y a jamais eu d'augmentation de l'amour de charité brûlant dans le cœur de Jésus. Il a toujours eu exactement le degré flambant d'amour qu'il a encore aujourd'hui. Mais pour Marie, c'est pas pareil. Il a fallu que d'acte de foi en acte de foi, d'espérance, etc., et de fruits du sacrement eucharistique, sa charité augmente jusqu'à ce qu'elle soit en affinité dans le feu de son amour, de son cœur immaculé avec, et de complémentarité, affinité avec le cœur brûlant de Jésus, ce même degré d'intensité d'amour. C'est ça le mystère du Sacré-Cœur. Et ça, cette conjonction des deux, du feu d'amour de charité finale, c'est ça qui est donné à Saint Jean pour être le prêtre, pour être le de la fin, pour être celui qui est là, fidèle à la fin, celui qui est celui qui suit le Saint-Père pour qu'il aille jusqu'à la fin. Il va devant le Saint-Père, hein, il le suit. Ces choses très 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 simples, très élémentaires que sont l'acte de foi, l'acte d'espérance, l'acte d'amour. Est-ce que c'est que le Fils de l'homme qui vient sur les nuées du ciel, c'est au fond notre motivation principale. Si on doit, j'allais dire, se bouger un peu, un mouvement, c'est dans cette direction, c'est pour que ce mouvement de la venue du Fils de l'homme soit là en nous pendant une demi-heure. Et c'est ça le pouvoir de la foi. C'est ça le pouvoir de l'espérance. C'est ça le pouvoir de la charité. C'est un pouvoir contemplatif, conscient, de sainteté toute pure que Dieu nous donne pour être les rois fraternels de l'univers, pour être les engendrés, pour être dans l'indivisibilité du Fils de l'homme. Parce que la toute-puissance de Dieu éternel ne peut pas s'exprimer si ce n'est pas dans l'engendrement de l'homme. Donc quand tous les hommes vivons cette toute-puissance de Dieu dans la nature humaine entière, en plénitude reçue et dans l'accomplissement final. Et voilà ce qu'explique le rabbin. C'est à cause de ça que le Fils de l'homme désigne la divinité du Messie. C'est pas génial? Est-ce que c'est pas génial? C'est génial. C'est en plus la pure vérité. Donc, voilà. De plus en plus, vous voyez, on se rapproche des temps. Donc, le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le bon grain qui est semé, ce sont les fils des engendrés du royaume accompli. Ouais. Si c'est pas dans leur raison, expliquez-moi. Et les moissonneurs de la fin du monde, ce sont les anges. Oui, comme on rejoint ce que nous avons exprimé ce matin. Moissonneurs. Ils viennent déployer dans les attributs divins
ce que nous sommes éternellement. Parce que chaque ange est dans sa nature angélique, l'expression spirituelle sans limite et sans fin d'un attribut divin. Ce que est cette expression angélique, c'est celle pour laquelle nous avons été créés, pour qu'elle soit tout à fait elle-même dans les processions incréées de Dieu. C'est pour ça qu'il y a deux processions créées de Dieu et que ces deux natures, et ça ne peut être que sponsal. Et là, le corps joue et le seul porte qui permet la conjonction des deux processions. Parce que c'est de la sponsalité. Passage de la lumière à la sponsalité ou à l'aspiration, c'est les anges n'en sont pas capables. Ils sont capables de nous introduire dans ce que nous sommes, dans les attributs divins sans limite et sans fin, et dans l'éternité de la lumière, de gloire, de la vision béatifique. Mais et du coup, eux-mêmes viennent se perdre dans l'infiniment petit de notre gloire, parce que nous avons un corps qui réalise l'unité des deux processions. C'est grâce à nous qu'ils peuvent rentrer dans l'indivisibilité des deux processions. Ils sont déjà dans l'indivisibilité de la vision béatifique. Ils n'ont pas besoin de nous pour ça. Donc ouais, finalement, c'est beau ça, de voir notre inscription dans le livre de la vie, dans l'au-delà de la fin du monde, enfin, dans l'au-delà de l'accomplissement en plénitude reçue. Pause. La nécessité de la mise en place parfaite de la signification sponsale du corps, du cœur, du sang et de notre charité. Et donc aussi la signification angélique de notre inscription dans le livre de la vie. Voilà pour le corps primordial. Et aussi, bien sûr, la mise en place accomplie en plénitude reçue de notre vocation, voilà pour la mise en place du corps spirituel dans le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel par l'oraison. Et si vous rassemblez les trois, vous avez la clé pour vous préparer à l'avertissement, c'est-à-dire à l'ouverture du cinquième saut de l'Apocalypse. Je vous demande pardon si je vous répète à chaque fois exactement la même chose. Invariablement. Mais on ne doit pas se lasser de l'actuer. C'est pour ça qu'on peut le répéter. Pourquoi ? Parce que le démon vient tout de suite nous ramener à autre chose. Immédiatement. Si on n'est pas vigilant. Alors, faisons au moins la demande de la persévérance finale ou de la désirer, au moins ça, puisqu'on sait que dans 5 minutes on sera dans un autre trip, comme disaient les freakismes. J'ai vécu pendant 6 ans avec des défoncés, qu'on a du LSD, du machin. Pendant 6 ans, j'ai vécu avec eux. J'en prenais pas, n'ayez pas peur de moi. J'en ai pas pris parce que je sais pas. Mais, c'est dommage. Hein. La vie spirituelle, c'est trop fort. Ils disaient, ils étaient géniaux. Parce que j'ai jamais été aussi heureux qu'avec eux. C'était vraiment extraordinaire, ces gars-là. Oh, mais pourquoi est-ce qu'on va tout le temps dans un autre trip? Pourquoi est-ce qu'on va tout le temps dans un autre trip? Évidemment, t'as un flashback avec ton LSD, tu vois. Tu pars ailleurs, quoi. On dit, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur.
Et ils étaient là, et puis ils pleuraient, et puis ils mettaient des fleurs dans les cheveux, et puis des opulents. Et puis bon Dieu faisait des miracles, il leur donnait des sucettes, il leur donnait tout le temps des trucs, c'était vraiment trop fort. Trop fort, trop fort. Ouais, être des êtres de... comme des enfants, quoi. Voilà. On va célébrer la messe dans cette intention, hein. Qu'au moins nous puissions demander, hein. Au moins ça. Demander pardon qu'on ne soit pas complètement engolfé, englouti et disparu dans ce désir-là. Hein. C'est ça, pitié, Seigneur, pitié. La prière de Tossulet. Demande pardon parce qu'on n'est pas complètement englouti, disparu dans ce désir-là. C'est la prière de Tossulet, ça. C'est la prière des enfants. C'est le mystère de compassion. Alléluia.
Alléluia. Le Christ va se manifester parmi nous. Celui qui est, qui était et qui vient, Dieu parmi nous, va dresser sa tente. La parole qui donne la paix déjà retentit. Le salut annoncé est au milieu de nous. Que la discorde, la haine s'éloigne de nos cœurs. Que l'amour du Christ, notre Seigneur, les habite. Le Christ va se manifester parmi nous. Celui qui est, qui était et qui vient, Dieu parmi nous, va dresser sa tente. Dieu bénit Seigneur Dieu de l'univers, toi qui ne danse pas, fruit de la terre du travail des hommes, te le présentant, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Les yeux levés vers toi, Christ, nous te supplions. Ne te souviens pas de nos péchés. À ton amour, prends pitié. Avec les anges, nous te supplions. Avec tous les saints, nous te rendons gloire. Le va se manifester parmi nous. Celui qui est et qui vient, Dieu parmi nous, va dresser sa main. Le Seigneur de l'univers, toi qui nous donnes ce pas, fruit de la vigne du travail, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Vous tous fidèles, rassemblés autour de cet autel royal, venez adorer le Christ qui habite au milieu de nous, avec tous les saints du ciel. Le Christ
par sa manifeste parmi nous. Celui qui est, qui était et qui vient, Dieu parmi nous va dresser sa tente. Prions ensemble. Au moment d'offrir le sacrifice de Jésus-Christ pour la gloire de Dieu et le salut du monde,